ne se rend pas compte du travail qu'il y a, mais c'est énorme. Ce sont des heures et des heures et des heures de travail. Alors ça, ce sont des livres qui ont été traduits parce que je pense que, franchement, si moi je prêchais ce message, je pourrais dans le sens, hein, c'est quelque chose que je comprends, mais je suis beaucoup moins ointe pour avoir prêché les messages tels qu'ils sortent sur le livre que ce que les auteurs ont fait en mettant leur message sur papier. Alors pour moi, c'est simple. Si quelqu'un fait quelque chose de mieux que moi et est appelé à le faire, ben je suis tout simplement lui laisser la place. Donc, on a réimprimé et à vrai dire revu et corrigé parce qu'il y avait eu un problème d'édition dans le premier texte en français qui était sorti et ça ne relevait pas de notre sort. Hein. Mais en tout cas, voilà, esprit, âme et corps est sorti. Et ça, c'est un des livres que chaque chrétien devrait avoir dans sa bibliothèque. Écoutez, si vous commencez votre vie en Christ et que vous commencez avec la révélation qui est dans ce livre, je peux vous dire que vous allez gagner des années et des années dans votre vie avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec Dieu depuis des années et qui ne comprennent pas qui est Christ et qui ils sont, parce qu'ils n'ont pas cette base-là. Donc, ils se demandent comment est-ce que Dieu, par exemple, peut aimer quelqu'un comme moi qui a passé son temps à pécher même en tant que chrétien. Comment est-ce que Dieu peut quand même me traiter comme si je n'avais jamais péché? Parce que c'est ce qui se passe. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un encouragement à pécher, parce que croyez-moi bien que le péché, il se retourne contre la personne qui le commet. Ça, c'est absolument sûr, chrétien ou pas chrétien. En attendant, lui, Dieu de son côté, il va traiter tous autant que Christ a fait, comme si on n'avait jamais péché. Pourquoi? Quel mystère! Voilà. Alors, vraiment, ce livre-là, vous voulez le lire, vous voulez prendre le temps de le lire, et ben, il est là à votre disposition. Et puis, il y a un autre... vous savez que Dieu a son mot à dire sur tous les sujets de la vie. Non, vous ne savez pas ça. Sur tous les sujets de la vie. Et combien je lui en suis reconnaissante. Si bien qu'à l'église, eh bien, normalement, on doit entendre parler de tous les sujets de la vie. Et dans une église où on n'entend que parler de la prière, eh bien, cela veut dire qu'il y a un déséquilibre énorme. Mais... ici, il est question d'un livre. Vous savez, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai moi-même enseigné sur le fait que Christ nous a rachetés dans tous les domaines de notre vie et y compris dans le domaine matériel, c'est-à-dire que Christ est venu afin que nous soyons rendus prospères autant que nous en avons besoin de manière à pouvoir faire sa volonté. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas comme un employeur qui demanderait à son employé de faire le meilleur travail avec une machine à écrire des années 1930. Dieu n'est pas comme cela. Donc si tu as besoin d'un super ordinateur pour faire ton travail, Dieu veut que tu l'aies. Si quelqu'un est représentant, eh bien vous comprenez qu'il ne peut pas arriver cassé chez ses clients. Il lui faut une très bonne voiture. Très bonne voiture, autant qu'il en a besoin. Bah, Dieu veut que cette personne ait cette très bonne voiture. Maintenant, est-ce que Dieu veut que quelqu'un qui ne voyage jamais ait une super voiture uniquement pour se vanter auprès de ses amis? Ben non. Non, ce n'est pas Dieu qui lui donnera cette voiture, si c'est uniquement pour cette raison-là. Donc, si vous voulez, le Seigneur est bon, il est fidèle. Mais je vais vous dire, ce livre-là, il est extraordinaire. C'est un... la manière dont le sujet de l'argent est abordé est complètement différent de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Et ce qui est dans ce livre, la culture anti-dette, est tellement bon que je me suis dit, ce livre-là, eh bien, je veux le mettre à la disposition de la francophonie. Ah ben quand même. Encore une fois, il y a des heures de travail derrière ce livre-là. Mais c'est ce message-là, c'est ce message. Beaucoup de gens ont peur de l'argent et beaucoup de gens sont esclaves de l'argent. Et ça n'est pas les gens qui ont beaucoup d'argent qui sont forcément esclaves. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui sont esclaves. Mais il y a des gens qui n'ont pas un rond et qui sont esclaves. Être esclave de l'argent n'a rien à voir avec la somme que l'on a ou que l'on n'a pas sur son compte en banque. C'est juste notre perception de l'argent, c'est tout. Et ici, il est question de la culture anti-dette. Oh là là, la culture de la liberté, quoi. Alors voilà, bon, bah, ces livres sont là. J'en parle parce que c'est un must. Mais ça n'est pas mon message. Alors, est-ce qu'il est possible d'enregistrer maintenant au moins ça? Oui. D'accord, parce que tout à l'heure, ça ne l'était pas. Donc, gloire à Dieu, merci. Sinon, on aurait mis un iPhone, hein, comme avant. Ouais, enfin, bon, avant, c'était la cassette qu'il fallait retourner. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est bonne? Vous savez, quand on sait qu'on va à un endroit où elle est annoncée, non, mais on devrait venir avec le cœur ouvert. On ne va pas écouter la parole de Dieu comme on va écouter un discours quelconque. On va écouter la parole de... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La parole de... Mais cette parole de Dieu, vous croyez qu'elle peut changer notre vie? Mais elle change la vie de ceux qui écoutent avec un cœur ouvert, c'est-à-dire que on va tous, avec ce message qui est annoncé, on va tous recevoir un message qui va être différent. Et le message que le Seigneur va nous donner à chacun à travers ce qui est annoncé, eh bien, va être un message qui va être fait sur mesure. Ça, c'est le miracle de la prédication. Il va y avoir une prédication et on va tous entendre quelque chose que le Seigneur va nous dire en fonction des besoins. C'est-à-dire que le message que l'on reçoit là est un message qui couvre les besoins que l'on a. Je ne sais pas si vous réalisez le miracle de la prédication, le miracle de la parole de Dieu. Alors, oui, je vous encourage à ouvrir votre cœur et parler à Dieu pendant que j'apporte le message qu'il met sur mon cœur. Parlez à Dieu, dites Seigneur, ok, si vous n'avez pas compris quelque chose, bah, dites Seigneur, voilà, j'ai besoin que tu le répètes, j'ai besoin que tu m'éclaires. Et c'est lui qui va guider ce que je veux dire. Vous savez, moi j'arrive avec le message tel que je l'ai reçu, j'arrive avec mes notes. Et combien de fois, eh bien, on n'a pas compris que le Seigneur est celui qui dit ce qu'il veut finalement. Et que mes notes, il n'en a trop rien à faire, on va dire. Tant mieux si elles correspondent à vos besoins. Mais si elle ne couvre pas vos besoins, il n'hésitera pas à se passer de mes notes et à me dire autre chose pour chacun. Donc, nous allons parler de la foi. La semaine dernière, eh bien, j'ai réussi à parler du premier verset. Peut-être que cette fois-ci, on va aller au deuxième verset au moins, peut-être qu'on arrivera jusqu'à la fin. Mais est-ce que vous avez envie de découvrir comment avoir confiance en Dieu? Oui? Alors, nous allons ouvrir notre Bible, d'abord dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Alors, je vous ai dit, le pasteur Marc est en Suisse où il prêche, et je suis vraiment, vraiment contente qu'il... C'est une autre expérience d'aller prêcher à l'extérieur, vous savez. C'est quelque chose qui est complètement différent, parce que l'onction qui est sur nous est différente quand on est à la maison que quand on est à l'extérieur. Donc, voilà, je me réjouis de ce qu'il va... expérimenter. Donc, est-ce que vous avez compris que nous avons tous en nous la foi? Hein? Ouais, nous avons tous la foi. Et ça n'est pas n'importe laquelle de foi, parce que c'est la foi de Dieu. C'est-à-dire que c'est une qualité de foi qui n'échoue pas. On n'a pas à fabriquer la foi. On l'a reçue. Cette capacité à croire dans les promesses de Dieu, cette capacité à croire, bah, une promesse, c'est invisible. Hein? Donc, on a cette capacité à croire dans les promesses de Dieu. Est-ce que ça enregistre? Oui, parce que sinon, on peut doubler avec un... Ok. Donc, cette capacité à croire dans les promesses de Dieu, ça veut dire cette capacité à croire en quelque chose qui nous est promis, mais qui n'est pas encore visible. Or, on va croire pour que ça devienne visible. Par exemple, quelqu'un qui est malade, Bien évidemment que Dieu veut le guérir. La volonté de Dieu n'est jamais à remettre en question. Donc Dieu veut le guérir. Eh bien, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est malade. Mais ce qu'il veut voir, c'est la promesse de par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Cette promesse est invisible, mais il veut la voir visible dans son corps, c'est-à-dire qu'il veut voir sa guérison. Il veut voir son corps en bonne santé. Eh bien, il va utiliser sa foi. Il va utiliser cette capacité à croire que Dieu est intègre, cette capacité à croire que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et quand on décide de croire dans les promesses de Dieu, par exemple, vous avez des besoins matériels, et vous dites, eh bien, moi j'ai lu dans la parole de Dieu que Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Eh bien, Seigneur, aide-moi. Et là, le Seigneur nous dit, non, mais tu as cette capacité en toi. Et c'est la même capacité que Jésus. Et l'apôtre Paul nous dit, c'est la même capacité que lui. Regardez avec moi donc, dans 2 Pierre, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 13 à 15. Alors, il est dit, et comme nous avons le même esprit de foi, on a ce même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, je peux croire. Vous savez, les chrétiens n'ont pas vraiment un problème de foi parce qu'on a cette capacité de croire. Il y dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Alors, c'est ici la clé. Beaucoup de gens disent, oui, mais tu sais, j'ai prié. Alors, la première chose, avant de prier, c'est de s'assurer que Dieu veut nous le donner. Parce que si Dieu ne veut pas nous donner quelque chose, ça ne sert à rien qu'on demande. Et ce n'est pas en jeûnant et en priant qu'on va persuader Dieu, on va lui tordre le bras en disant, tu vas me... Dieu veut nous donner, et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on le lui demande. Par exemple, si je vous ai promis, eh bien, si un jour il te manque, je ne sais pas moi, 3 000 euros, ben simplement viens me voir et je te dépannerai. Eh bien, le jour où il vous manque ces 3 000 euros, exemple, je dis bien exemple, eh bien, qu'est-ce que vous feriez? Vous auriez l'assurance de venir me voir parce que vous diriez, moi je me souviens, le pasteur m'a dit qu'elle me prêterait ou elle me donnerait. Cas-là, voir, vous ne viendriez pas me voir en disant « Ouh là là, je ne sais pas si elle va me donner ou pas. » À moins que vous ne doutiez de mon intégrité. Si vous savez que je suis une personne intègre, alors vous venez me voir avec assurance et vous me rappelez la promesse que je vous ai donnée. C'est ça la prière. C'est aller à Dieu, aller devant le Seigneur, avec une promesse que l'on a trouvée dans la Bible. On n'invente pas un exaucement de prière. On a un exaucement de prière par le fait qu'il est promis. Je ne sais pas si vous voyez cela. On a un exaucement de prière parce qu'il est écrit. Donc, j'ai trouvé une promesse de la Bible. Par exemple, eh bien, demander la sagesse à Dieu. Je me trouve dans une situation, je ne sais pas quelle décision prendre. La Bible me dit que si je demande la sagesse à Dieu, eh bien, il me la donnera sans reproche. Ça, c'est déjà pas mal, ça. Sans reproche, il n'est pas là en disant, ouais, toi, t'es nul, franchement, depuis le temps qu'on se connaît, je t'explique, tu devrais savoir. Il n'est pas comme cela. Il dit, ok, tu as besoin de sagesse. Ah, tu sais que je peux te la donner, ben tiens, je te la donne. Allez, hop. Donc, je découvre dans la parole de Dieu tout ce qu'il m'a promis, parce qu'il faut se rappeler quand même que nous avons entre les mains un testament. nous découvrons ce que Dieu nous a promis, et le jour où nous en avons besoin, la Bible dit, approchez-vous du trône de Dieu avec assurance, afin d'être secouru et de, au moment opportun, et, afin d'être secouru et de trouver grâce au moment opportun ou dans un moment de besoin. Donc quand on a besoin, eh bien il faut se rappeler que Dieu n'est pas une divinité inconnue qui ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève et qu'on ne connaîtrait pas. Dieu est un Père. Et il dit, approchez-vous de moi. Mais quelle doit être notre démarche quand on s'approche de lui? Eh bien, il nous dit, approchez-vous avec assurance, c'est-à-dire approchez-vous avec foi. Oui, la Bible nous dit que celui qui s'approche doit croire que Dieu existe. Bon, ça, effectivement, c'est une condition. Mais ce n'est pas la seule. On doit s'approcher de Dieu parce qu'on croit que Dieu existe et qu'il récompense, qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. C'est-à-dire qu'il va nous donner ce qu'on vient chercher parce qu'on a trouvé qu'il voulait nous le donner. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu, ils n'ont aucune idée de ce que Dieu veut pour eux. Ils ne savent pas si Dieu est pour eux, si Dieu est contre eux. Et puis, ils perdent du temps à demander. Et comme ils ne reçoivent pas, eh bien, ils sont déçus. Et la Bible nous dit qu'un cœur abattu, eh bien, c'est quelqu'un qui va finir par être malade. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens malades? Ben, ça, c'est une des raisons. Hein. Mais le Seigneur dit, approchez-vous dans un moment de besoin. Au lieu de s'approcher, il y a beaucoup de gens qui vont s'approcher de leur psychologue, qui vont s'approcher de leur avocat, qui vont s'approcher de leur mari, de leur femme, de leurs enfants, qui vont demander la prière à tout le monde et qui ne prennent pas le temps de répondre à cette simple invitation. Approchez-vous du Père. Comment? Avec confiance. Je ne viens pas en mendiant, je ne m'approche pas de Dieu en bégayant. Si tu as 2 minutes pour moi. Si. Non, approchez-vous avec assurance. Et mes amis, la foi, c'est l'assurance. L'assurance que ce que j'ai trouvé qu'il veut me donner, il me le donne quand je le lui demande. Arrêtons de demander à Pierre-Paul Jacques de demander à notre place. Parce que ça n'édifiera jamais notre foi. Ça nous garde dans un état qui est abêtissant, qui nous infantilise. Quand on demande toujours aux autres de prier pour nous. Pourquoi? Parce que les autres vont voir le résultat de leur prière. Et nous, on va toujours rester dépendants de la prière de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous soyons matures en Christ. Le Seigneur veut que nous grandissions. Le Seigneur veut que nous soyons autonomes tout en étant dépendants de lui. Afin que quoi? Ben, afin qu'on soit suffisamment fort pour aider les autres. Maintenant, approchez-vous avec assurance. Comment avoir de l'assurance? J'ai de l'assurance devant Dieu d'abord. Vous vous rappelez de ce message? Hein, parce que je sais qu'il m'aime. Ça, c'est la première des conditions. Ce n'est pas à quel point j'aime Dieu qui compte, c'est à quel point il m'aime qu'il compte. Et peut-être que vous voulez réécouter. Ça, c'est un message de base. Réécoutez ce message sur le site elbn.org. Hein. Et puis ensuite, j'ai compris qu'il m'aime. Donc d'une manière, il a une solution pour moi. Et je vais chercher dans la Bible. Vous dites, oui, mais je ne connais pas la Bible. Alors trouvez quelqu'un qui la connaît. Trouvez un des responsables de cette église. Et puis dis-lui, voilà, j'ai tel problème. Est-ce que tu peux m'aider à trouver des versets dans la Bible? Parce que je veux savoir si la Bible couvre mon cas. Vous savez, un avocat ne se présente pas au tribunal avec des bonnes idées ou des articles de journaux. Il va se présenter avec des textes de loi. Je dis, il va se présenter avec des textes de loi. C'est-à-dire que c'est une autorité supérieure qui a décidé de la manière dont un pays va être géré. Eh bien, Dieu est à la tête de son royaume. Et à la tête de son royaume, il nous a donné d'avoir entre nos mains un texte de loi. Mais ce texte de loi entre nos mains ne suffit pas, il faut qu'il soit dans notre cœur. Et quand la parole de Dieu, nous la cachons dans notre cœur, alors dans un moment de besoin, Je dis dans un moment de besoin. Ça n'est pas un problème d'avoir un besoin. Il y a des chrétiens qui, vous savez, quelquefois, on leur dit, mais demande à Dieu, demande à Dieu. Oh non, 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 tu sais, il a autre chose à faire. La personne dit du style, je vais régler mes propres besoins moi-même. Et se demande pourquoi sa vie continue à descendre vers le bas. Non, dans un moment de besoin, parle à Dieu. Mais ne parle pas à Dieu uniquement avec tes bonnes idées, avec ton besoin. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, tu parles à Dieu avec son texte de loi. Tu parles à Dieu avec sa parole. Tu approches Dieu avec assurance parce que tu sais ce qu'il t'a déjà dit. Et ce qu'il t'a déjà dit est écrit. Tout ce qui est écrit est suffisant pour couvrir tous les besoins que nous aurons jamais sur la planète Terre. Et bien au-delà. Donc, on réalise que ce qui est écrit est déjà notre solution. C'est simple. Ce qui est écrit est déjà notre solution parce que c'est la promesse qui répond et qui couvre tous nos besoins. Donc, je vais parler à Dieu avec une promesse, je vais parler avec la solution. J'ai dit, je vais parler à Dieu. Vous avez vu ce texte ? Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Mais nous n'avons pas, le Seigneur ne nous invite pas à parler de notre problème, il nous invite à parler de ce que nous croyons, et ce que nous croyons, c'est ce que la Bible dit. Alors vous allez dire, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas parler à Dieu de mes problèmes? Bien sûr que oui, mais je pense que si tu l'as fait une fois, il a compris. Hein? La Bible nous dit que Dieu n'a aucun problème à entendre, il n'a pas un problème de surdité, malgré l'âge qu'il a. L'audition n'a pas diminué, il n'a pas les nerfs en plotte, nous sommes acceptés dans sa présence. Hein? Donc, quand on lui a parlé une fois de notre problème, et la manière de parler à Dieu, alors je ne sais pas s'il y a un délit, mais il y avait se décharger peut-être de tous nos soucis de Lucie Mackie, qui explique très bien comment parler à Dieu. C'est-à-dire, ah ben voilà, c'est celui-là. Et ici, c'est comment se décharger des soucis. Parce que les soucis, on n'est pas supposé les garder, parce que les soucis que nous gardons finissent par affecter notre santé. Donc le Seigneur nous invite à en parler. Mais comment est-ce que l'on va, merci, comment est-ce que l'on va parler à Dieu de nos soucis? La première fois que l'on parle à Dieu d'un besoin ou d'un souci, on vide notre sac. C'est-à-dire, on va lui parler comme on prend, vous avez déjà pris, je pense que vous le faites en tout cas, hein. Ma mère m'a toujours appris, quand tu mets un vêtement dans la machine à laver, tu le retournes. Hein? C'est ce que l'on fait. Et si vous ne le faites pas, il y a de grandes chances que vos vêtements déteignent et vous vous demandez pourquoi. Voilà. Donc on prend un vêtement et on retourne. Mais avant de retourner un vêtement et de le mettre dans la machine à laver, certains sont en train d'apprendre quelque chose ce matin. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On retourne les poches d'abord. Combien de fois je n'ai pas laissé un mouchoir dans un vêtement et c'est l'horreur. Jusqu'à ce que j'ai appris la bonne leçon et que j'en ai ras-le-bol de ramasser tous ces petits morceaux blancs qui ont collé à du velours, par exemple, ou un truc comme ça. C'est juste, ou à de la laine, c'est de l'horreur. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va retourner les poches. S'assurer qu'il n'y a aucune pièce dedans qui bloque un orifice de la machine à laver, ça c'est encore autre chose. On va s'assurer qu'il n'y a rien et ensuite on va retourner le vêtement complètement. Voilà, quand on parle à Dieu d'un problème, on retourne le problème complètement devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que l'on a à dire sur le sujet, c'est le moment de se décharger sur Dieu. Quand je dis tout, c'est tout. Et tu as entendu ce qui m'est arrivé, j'aurais dû avoir cette prime et je ne l'ai pas eue et c'est une injustice parce qu'il y a quelqu'un qui m'est passé avant et Seigneur, c'est horrible parce que tu sais qu'il y a des rumeurs qui ont été répandues sur moi. Seigneur, c'est injuste. Or, tu sais, Seigneur, que cette prime, eh bien, j'avais l'intention de m'acheter, je ne sais pas moi, une voiture avec ou de changer tel meuble. Seigneur, c'est complètement injuste. Donc, Je t'en parle maintenant. Seigneur, j'avais prévu. Et vous dites tout ce qui concerne le sujet. C'est-à-dire, vous avez retourné vos poches. Il y en a qui vont vers le Seigneur et qui parlent en 2 secondes. Et ils disent, bon, ben, ça y est, Seigneur, après tout, tu sais tout. Mais écoutez-moi. Non. On va devant Dieu. En général, les gens qui parlent à tout le monde de leurs problèmes, c'est qu'ils n'ont pas retourné, ils n'ont pas vidé les poches devant le Seigneur. Pourquoi ? Parce que quand on a parlé à Dieu de tout ce qui concerne le problème, tout, et il n'y a pas un sujet que Dieu ne puisse entendre. La personne à qui vous vous confiez n'acceptera pas de tout entendre de vous. En revanche, Dieu, il est là et il dit « vas-y ». Pourquoi ? Parce que déjà, il connaît tout. Ça aide un peu, hein ? C'est-à-dire que notre réputation ne va pas la perdre devant le trône de Dieu. Notre image ne va pas se dégrader devant le trône de Dieu. Les anges qui entourent le trône ne vont pas être « oh là là, c'est horrible, je ne veux plus l'entendre, là. » Et tout d'un coup, les anges qui sont devant le trône de Dieu arrêtent de voler, on les entend tomber comme des mouches parce qu'ils sont absolument choqués de ce qu'ils entendent. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On se présente devant le trône de Dieu et il est celui, on va retourner, on va vider notre âme devant le trône de Dieu. On va lui parler de nos déceptions, on va lui parler de nos expectatives, on va lui parler de nos aspirations, on va lui parler de nos difficultés, on va lui parler de tout. Et ça, c'est prier. Prier, c'est pas réciter. Prier, c'est pas un mantra. Pas pour nous, chrétiens nés de nouveau. Prier, c'est simplement communiquer avec Dieu de cœur à cœur. Et c'est là qu'il y a ce contact avec Dieu, de cœur à cœur. Une fois qu'on lui a dit tout ce qu'on avait à dire, vous savez ce qui se passe ? Eh bien, vous avez déjà pris une bouteille de Coca-Cola. Eh bien, on sait qu'il y a beaucoup de... Il y a du gaz dedans. Hein. Et vous avez vu ce qui se passe ? C'est que quand on agite, on ouvre, paf ! Alors là, c'est... Hein. Mais qu'est-ce qui se passe ? Une fois que le gaz s'est échappé, est-ce que le Coca-Cola sort de la canette ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de gaz. C'est-à-dire, une fois, vous allez dire, oh, c'est profond. Bah oui, mais attendez la suite. Une fois, alors on a appris comment laver le linge, on est en train d'apprendre à ouvrir une canette, c'est bien, venez à l'église, hein. Mais voilà le truc, c'est qu'une fois qu'on a parlé au Seigneur et qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire, eh bien tout simplement, il n'y a plus de gaz. Et il n'y a plus le besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous demandiez où je me perdais avec mon Coca-Cola là. Hein? Mais c'est pour cela que quand quelqu'un a vraiment parlé à Dieu, cette personne n'a plus le besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Tant qu'on n'a pas parlé à Dieu... On continue à parler, c'est-à-dire qu'au lieu de se décharger sur Dieu, on charge les autres. Vous comprenez comment ça et c'est juste pas comme cela que le Seigneur a prévu que nous vivions entre êtres humains. Ceci dit, oui c'est bon, hein, ouais, je trouve aussi. Pour l'instant, je suis au premier verset de mon message. Va falloir aider là, hein. Dis donc. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ici, l'apôtre Paul, il nous dit, on ne s'arrête pas à demander. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à croire ce qu'on a lu de vrai de Dieu ou ce qu'on a lu de vrai de nous dans la Bible. Une fois que l'on a trouvé qui est Dieu, qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, ce que nous pouvons faire en Christ, et que l'on a un besoin, hop, au moment du besoin, je me présente vers le Seigneur et je lui en parle. Ben, il est évident que quand je me présente à Dieu avec une de ses promesses, et je dis, tu sais Seigneur, j'ai tel besoin, mais je lis dans la Bible, voilà ce que tu m'as promis. Voilà Seigneur. Vous imaginez la relation qu'on a avec le Père. Et vous imaginez que, évidemment, que là, eh bien, on a la foi dans la parole de Dieu. On a la foi qu'il va nous donner ce qu'il nous a promis. Mais ça ne suffit pas de croire. Ça ne suffit pas de croire. Oui, je sais que si je demande cela à Dieu, il va nous le donner. Ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens, beaucoup, combien de fois je n'ai pas entendu oh, « Pasteur, tu sais, j'ai prié, je n'ai pas vu le résultat. J'ai demandé. » D'abord, demander oui avec foi, ça c'est une chose. Parce que demander dans l'incrédulité, ça n'est pas le nombre de demandes qui va faire que Dieu exauce mes prières. C'est juste ce son particulier de la foi qui sort de mon cœur. Quand Dieu entend le son de la voix, ça c'est oui tout de suite. La foi, on ne peut l'avoir que quand on a trouvé ce qui nous appartient. Parce qu'on n'a aucune assurance pour demander quelque chose qui ne nous appartient pas. Et c'est là le truc. Une fois que j'ai trouvé ce qui m'appartient, je vais demander avec assurance en sachant que le fait que c'est écrit, ça m'appartient. Mais ça ne suffit pas. Demander ne suffit pas, croire ne suffit pas. L'apôtre Paul nous dit ici, il est indispensable qu'il y ait ce deuxième élément qui est quoi ? J'ai cru. Est-ce qu'il est dit j'ai pensé ? Vous savez combien de personnes pensent à la promesse ? Combien de personnes pensent aux problèmes qu'ils ont ? Et ils pensent non. C'est j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est-à-dire que si notre demande à Dieu ne va pas plus loin que le trône de Dieu, on ne verra jamais les ossements, même s'il nous appartient. Pour que la prière soit exaucée, pour que vous ayez ce que vous avez demandé, c'est bien de demander à Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que nous parlions ce que nous croyons. Combien de personnes ne parlent pas du problème plus que de ce qu'elles croient et n'arrêtent pas de parler du problème. Il est dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand je découvre une promesse dans laquelle je crois, alors j'en parle à Dieu, je dis, Seigneur, voilà, je viens te voir parce que j'ai besoin, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un veut des enfants. Seigneur, voilà, je te demande, la Bible me dit que tu es celui, Seigneur, qui ne veut que personne soit stérile. Alors voilà, je t'en parle, je veux des enfants. Et je crois, Seigneur, que tu me les donnes. À partir du moment où j'ai parlé à Dieu du problème, où j'ai parlé à Dieu de la solution, de la promesse, à partir de ce moment-là, je dois uniquement parler de ce que je crois. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ce qu'ils croient devant le trône de Dieu. Et dès qu'ils ont tourné les talons et qu'ils repartent dans leur vie de tous les jours, ils parlent du problème. Tu comprends, on n'arrivera jamais, et puis après tout, nanana, et puis ton père est comme ça, et ta mère est comme cela, et ta grand-mère est comme cela, et Adam est comme ça, et Ève est comme cela. Il y a toutes les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Et ils râlent des années après, ils disent « J'ai pourtant demandé et j'ai pourtant cru ». Oui, mais la Bible dit « j'ai cru ». C'est pourquoi j'ai parlé. Écoutez, personne ne peut parler la promesse de Dieu mieux que vous. Et votre contribution est indispensable pour le Seigneur. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit. Et c'est vrai également, on a un exemple dans Romains chapitre 10. C'est extraordinaire d'arriver au second verset, hein. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Romains chapitre 10, et nous voyons ici. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas compliqué les choses. Il n'a vraiment pas compliqué les choses. Et il veut que notre relation avec lui soit profitable. Il veut que nous vivions sur cette terre comme ses enfants. Et Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants ne mendie. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants soit malade. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants soit hésitant. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants soit confus concernant son futur. Dieu est un bon père. Dieu n'est que bon. Il n'y a pas autre chose en lui. Il n'y a pas de malice. Il n'y a pas de double agenda. Dieu n'est que bon. Mais ce qui est essentiel pour nous chrétiens, c'est que nous entendions pas simplement le début d'un message, comment croire, mais que nous allions jusqu'à la fin. C'est pour ça que quand vous commencez à entendre la parole de Dieu sur une série, la pire des choses que vous puissiez faire sur un thème précis, c'est d'entendre juste une partie. D'entendre juste un morceau de cette révélation. Non, allez jusqu'au bout. Vous avez trouvé Romains chapitre 10. Il est dit, versets 9 et 10, il est dit ici, comment être sauvé? On n'est pas sauvé en venant à l'église. On n'est pas sauvé en récitant des prières. On n'est pas réconcilié avec Dieu parce qu'on jeûne. On n'est pas, on n'a pas la vie éternelle parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Ça n'est pas comme cela que ça marche. La Bible nous dit ici, si tu confesses de ta bouche tes péchés, non. Non, on n'est pas sauvé en confessant nos péchés. Je sais que ça va à l'encontre, hein, mais j'ai prêché dessus peut-être l'année dernière. Mais réécoutez, non, nous sommes rétablis dans une relation avec Dieu en confessant, en déclarant, en proclamant la Seigneurie de Jésus sur notre vie. Et il est dit, si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire si tu articules, donc ça a à voir avec la parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc pour que quelqu'un soit sauvé, il ne suffit pas que cette personne croie. On y est encore ? Il ne suffit pas que cette personne croie. Dire à quelqu'un, est-ce que tu crois en Jésus ? Oui, ça ne suffit pas. Cette personne peut aller en enfer rien qu'en croyant en Jésus. Mais il est dit, si tu crois et que tu confesses, c'est-à-dire j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Celui qui croit est celui qui parle. Regardez avec moi dans Marc chapitre 11. Est-ce que vous comprenez que croire n'est pas suffisant? Croire seulement n'est pas suffisant. Marc chapitre 11. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, c'est important ce que l'on voit, parce que la Bible dit « tout est possible à celui qui croit ». Quand il est dit « tout est possible », ça veut dire que le croyant né de nouveau, qui comprend comment libérer sa foi, c'est-à-dire libérer quelque chose qu'il a déjà, s'il sait comment le faire, s'il sait comment coopérer avec Dieu, Dieu est dans une autre dimension, Dieu est dans une plus grande dimension que la nôtre. Or, il se trouve que dans cette dimension physique dans laquelle nous sommes, eh bien, nous avons autorité. Et Dieu ne peut pas intervenir souverainement de notre côté du voile. Il ne peut pas le faire sur cette planète, il faut qu'il ait l'autorisation de le faire. Et l'autorisation d'intervenir, c'est un être humain qui la lui donne. Est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Bien sûr que Dieu est Dieu. Mais il a choisi de se limiter pour nous apprendre à régner. Ce que nous ferons pour l'éternité avec Christ, mais le terrain d'entraînement est ici-bas sur terre. Marc 11, versets 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors, il faut se dire que les disciples étaient en chemin avec Jésus et puis tout d'un coup, Jésus a vu que ce figuier-là n'était pas productif comme il aurait dû produire et il a fait une démonstration de la parole prononcée avec foi. Je dis, il a fait une démonstration de ce que peut faire une parole qui est prononcée avec foi. Et il a maudit un figuier. Quand il l'a fait, le lendemain, il a juste parlé au figuier. Tu ne portes plus de fruits. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas, de toute évidence, il savait que c'était la volonté du Père, parce qu'il a, il a dit, je ne dis que ce que j'entends le Père dire et je ne fais que ce que je vois le Père faire. Le Père voulait que les disciples aient une démonstration de foi. Jésus n'a pas répété 150 fois la même chose en disant, c'est bizarre, j'ai parlé à ce figuier et regarde, il a toujours des feuilles sur... C'est... Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il connaît le principe, je crois ce que le Père m'a dit de faire et je vais le parler et le Père va faire l'œuvre. Seulement, nous, quand on parle notre foi, on essaie de comprendre tous les détails, mais comment ça peut, parce que tu comprends, je ne connais pas telle personne, je n'ai pas accès à telle administration, parce que je n'ai pas assez d'argent, parce que je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis marié, je suis célibataire. On essaie de trouver dans notre tête toutes les raisons pour lesquelles on ne serait pas exaucé, alors qu'il faut que l'on trouve toutes les raisons pour lesquelles on a le droit d'être exaucé. Et quand Jésus a parlé à ce figuier, tout ce qu'il a fait, il l'a dit une fois parce qu'il connaissait la puissance de « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et le Père a fait, il a dit c'est le Père qui fait les œuvres. Ce n'est pas nous qui nous guérissons, c'est le Père qui guérit. Nous parlons ce que nous croyons. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins. Je déclare que cette facture, dans le nom de Jésus, elle est payée en temps et en heure. Je déclare que mon compte en banque a telle somme dessus. Évidemment que si vous avez du mal à croire pour 200 € sur votre compte en banque, n'allez pas déclarer que vous avez 1 000 000 sur votre compte en banque. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est progressif. Chacun son niveau. Mais en tout cas, il est indispensable que ce que l'on croit, on le parle. Jésus l'a fait. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, les disciples passent par là et ils voient que ce que Jésus a dit, c'est exactement ce qui s'est fait. Pierre, se rappelant, verset 21, ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi !» Jésus était juif, hein, juste petit détail. « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et là, il va leur expliquer pourquoi. Il dit « Ayez foi en Dieu. » Donc, ça n'est pas foi en un concept, c'est « J'ai mon assurance, elle est dans ce qu'il me dit de faire. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, alors qu'est-ce qu'une montagne? Ben, une montagne, ça représente quelque chose qui est plus grand que nous. Quelque chose qui est un obstacle, quelque chose qui nous empêche de l'autre d'aller de plus en avant dans notre destinée. Une montagne, ça peut être, je ne sais pas moi, un employé avec qui vous avez des difficultés. Ça peut être votre entreprise, tout d'un coup, ben, y a moins de clients. Ça peut être un enfant qui est malade. Ça peut être un problème de voiture et puis pas suffisamment de finances. Peu importe le nom de ta montagne. Et le Seigneur dit, je vais vous expliquer comment marche une parole qui est libérée par la foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, donc apparemment, ici encore, la parole rentre en action. Le verbe dire, si quelqu'un dit à cette montagne, à ce problème, est-ce que tu peux parler à un problème? Bah, tu ne parles pas à ton chien? Les gens pensent qu'on ne peut parler qu'aux gens. Hein? Les gens pensent qu'on ne peut parler qu'à Dieu et on ne peut parler qu'aux êtres humains. C'est une pensée nouvelle, ça, non? Et pourtant, on parle aux animaux. Il y en a qui parlent à leur voiture. « Ouais, j'en ai marre, tu démarres jamais le matin, toi, hein ?» C'est toujours comme ça, en hiver, ça, tu marches jamais. Ils parlent à leur voiture. Il y en a d'autres qui parlent à leur compte en banque. « Oh, j'en ai marre, regarde un peu, regarde-moi, t'es dans le rouge encore !» Aux plantes, il y en a combien qui parlent aux plantes? Tu es belle. Ah, oh, t'es moche. Oh là là, t'as séché, toi, hein? Et Jésus nous dit, oui, parle à ton problème. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'en général, les gens parlent de leurs problèmes. Ils parlent de leurs problèmes, ils parlent de leurs problèmes, et ils parlent de leurs problèmes, et ils parlent de... Ils parlent, attention, attention, attention. Si tu as un problème, le Seigneur dit, tu parles à ton problème. Et tu ne peux pas parler de ton problème et à ton problème en même temps. Il dit, si quelqu'un, donc quelqu'un c'est qui? Ben, n'importe qui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui. N'importe quelle personne qui a un problème. Tout est possible à celui qui croit. Si quelqu'un dit à cette montagne, alors ben là, il va nous dire ce qu'il faut dire à notre problème. Ôte-toi de là. Qui parle à son problème? Ben celui qui l'a. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est-à-dire s'il commande à son problème de se déplacer. Après tout, ton problème est bien arrivé jusqu'à toi. Pourquoi il ne se déplacerait pas loin de toi? Hein? Pourquoi ton problème ne se déplacerait pas loin de toi? Et le Seigneur est en train de te dire comment? Il dit, tu parles à ton problème. Tu dis, problème financier, manque dans le nom de Jésus. Va te jeter dans la mer. Je ne vous dis pas l'état de la Méditerranée. Hein? Allez, il est dit, s'il ne doute pas en son cœur, ah, donc c'est quelqu'un qui doit croire, croire du cœur. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit, il le verra s'accomplir. Amen? Ben non. Désolée pour ceux qui ont répondu de travers, mais non. Il n'est pas dit que ceux qui, s'il le croit, il le verra s'accomplir. Et non, cette mentalité qui fait que parce que je crois, je vais le voir. Non, s'il croit que ce qu'il dit, il ne faut pas s'arrêter à croire. S'il croit que ce qu'il dit, s'il croit que ce qu'il a dit à son problème, s'il croit que ce qu'il dit arrive, alors il est évident que je vais le dire parce que je crois. Je crois que quand je... Vous savez, ça m'est arrivé. Hein. Vous m'avez entendu dire ça. Un jour, j'avais un arbre qui me cachait la vue. Je venais d'arriver dans une résidence. Alors, je ne vous conseille pas de le faire. Hein. Mais en tout cas, j'avais dû entendre un message comme ça. Ça m'a inspirée. J'étais arrivée dans une résidence. Et puis, la mer, je la voyais, sauf qu'il y avait un immense palmier qui me l'a caché à moitié. Donc... Je me suis dit, je vais lui commander de se déplacer celui-là. Je vais lui faire le coup du figuier. Et je l'ai fait. J'ai bien médité sur ce verset. Et un jour, j'ai dit, dans le nom de Jésus, je te maudis. Je te commande de te déplacer. Tu me caches la vue, tu te déplaces de là. La vue est dégagée au nom de Jésus. Ben, il a été coupé. C'est aussi simple que ça. Il a été coupé. Et la vue a été dégagée. Il m'est arrivé de passer devant un magasin de voyance. Je m'en rappelle, il y en avait un notamment près du Vieux-Nice. Ou de porno, un magasin qui n'a rien à faire dans notre ville. Surtout si vous habitez dans le quartier. Dans le nom de Jésus. Alors évidemment, je ne suis pas dans la rue en train de pointer du doigt. Hein. Vous imaginez, on passe dans le nom de Jésus, je te maudis. La 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 la. Hop là. c'est pas comme ça. Mais à l'intérieur, c'est ça. Et je l'ai dit du bout des lèvres, parce que ce n'est pas le volume qui compte, hein, je vous C'est pas le volume qui compte. C'est juste que la parole, elle soit libérée dans cette dimension. Dans le nom de Jésus, je commande aux finances de sécher. Et je déclare la fermeture de ce magasin. Vous voyez ce qui s'est passé ? Fermé. Ne me demandez pas comment, ça m'est complètement égal comment ça ferme. Ce n'est pas à moi d'essayer de trouver comment ça va se faire. Juste, je l'ai dit, ça n'a rien à faire dans ma ville. Il y a combien de gens qui n'arrêtent pas de râler dans leur quartier ? Ouais, regarde un peu dans le quartier. Il y a toujours des détritus, les poubelles ne sont jamais ramassées. Et ils le disent, et ils le disent, et ils le disent, donc les poubelles ne sont jamais ramassées. Pourquoi ne vas-tu pas dire ce que tu crois ? Est-ce que Dieu veut que tu habites dans un quartier ? Alors, je ne sais pas pourquoi je le dis ni pour qui, mais en tout cas, ça peut aider quelqu'un. D'ailleurs, bonjour aux personnes qui nous écoutent par Internet. Mais on peut changer l'atmosphère d'un quartier. Est-ce que Dieu veut que tu habites dans un quartier qui soit propre ? Est-ce que Dieu veut que tu habites dans un quartier où les façades sont peintes ? Ben dans ces cas-là, oui, Dieu le veut. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu le déclares dans le nom de Jésus. Voilà ce que je crois. Poubelle, vous allez vous jeter dans la mer. Après, les écolos, ils font ce qu'ils veulent avec. C'est plus notre problème. Oh, mais ce que l'on veut dire, c'est dans le nom de Jésus, je déclare que ce problème est réglé. Je déclare que ces détritus au nom de Jésus, ils ne sont plus dans mon quartier. Je déclare que mon quartier est propre. Je déclare que mon quartier est en sécurité. Je déclare que mon quartier prospère. Je déclare que mon quartier est calme. Je déclare que les façades sont repeintes. Je déclare que les immeubles sont propres. Je déclare ceci, je déclare. Et la Bible dit, s'il croit que ce qu'il dit. Au lieu, à chaque fois, d'aller chercher la voiture dans le quartier et de dire, j'en ai marre, regarde, j'ai encore marché sur un papier qui est plein de gras, qui traîne dans la rue, là. J'en ai assez, regarde un peu, le balcon, tout à l'heure, il nous tombe dessus, là. Et tous les jours, on le dit, et tous les jours, et ça ne fait qu'empirer. Mais si quelqu'un qui comprend comment fonctionne la foi, c'est d'abord, on en parle à Dieu, et on dit, Seigneur, voilà ce que je vais dire maintenant, parce que j'ai vu ce qui se passe. Maintenant, je vais le dire. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Oui, il y a un problème de drogue dans l'école des enfants. Eh bien, au lieu de t'attendre à ce que tes enfants succombent à la drogue, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas commander à cette drogue, dans le nom de Jésus, de ne plus mettre les pieds dans l'école de tes enfants. Tu vas commander que ceux qui sont dans ce trafic soient arrêtés. Vous savez, moi, quelquefois, il m'arrive d'être sur la route et de voir des personnes qui sont vraiment des dangers, et qui font des queues de poisson, qui ont une conduite qui est à risque pour eux, ça m'est égal. Mais pour moi ou pour les autres, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, dans le nom de Jésus, je t'arrête et je déclare que tu es arrêté par la police. Aussi simple que ça. Et je crois qu'à partir du moment où j'ai libéré cette parole, les anges de Dieu vont faire en sorte que ça arrive. Vous dites, oh mais pasteur, tu sais, comme franchement, je... Non mais la foi, ça sert à quoi exactement ? Vous croyez que ça va nous servir à vivre au ciel seulement ? C'est ici-bas que notre vie chrétienne marche. Alors s'il y en a qui disent, oh c'est trop, bah t'en sers pas, chacun son truc, hein. C'est simple, personne n'est obligé de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais j'ai remarqué une chose, mes amis, c'est que si on utilise ce que l'on sait dans les détails, le jour où il arrive un pépin, eh ben, on ne chavire pas non plus. C'est ça le truc. C'est parce que les gens, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ils se disent, attends, vas-y, prêche, pasteur, j'écouterai la série plus tard. Hein. Une fois que j'aurai un problème, il y a peut-être des possibilités que ce soit un peu tard. La Bible dit le juste vivra par la foi. C'est un style de vie de parler ce que l'on croit que Dieu nous a donné, de parler qui est Dieu pour nous, de parler qui nous sommes en Christ, de parler les promesses de Dieu et les voir. Pourquoi ces promesses sont écrites ? elles sont écrites pour qu'elles se manifestent dans notre vie et pour qu'à travers nous, le règne de Dieu se voit. C'est ce chant que l'on a chanté tout à l'heure, le royaume de Dieu, quoi, au milieu de nous. C'est bien, mais le royaume de Dieu, c'est à travers nous, en nous. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. C'est en nous que Dieu règne. Et il manifeste son règne quand nous libérons notre parole par la foi. Le juste vivra par la foi. Personne ne peut... Vous savez, quelquefois, les gens ils disent « Oui, oui, d'accord, je vais exercer ma foi pour la guérison, mais pas pour le reste. » Non, c'est dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Et plus nous exerçons notre foi dans tous les domaines de notre vie, plus nous voyons le règne de Dieu et plus il est glorifié à travers nous. Donc, on vit sur cette terre, mais on ne dépend pas du gouvernement, on ne dépend pas de notre employeur, on ne dépend pas de ce que nos parents ont ou n'ont pas génétiquement ou sur leur compte en banque ou leur réputation ou tout ce que vous voulez. On ne dépend que de Dieu. D'où l'importance d'enseigner Dieu à vos enfants. Ne leur faites pas croire que vous êtes Dieu. Ah ben non, mais je sais que c'est évident comme cela. Mais si vous, quand vous dites à vos enfants, non, ne me demande pas ça parce que tu sais, je ne peux pas te le donner. Hein. Ah, ce mois-ci, alors je suis fauchée, non, je ne peux pas te le donner. Vous êtes en train de leur dire, je suis ton Dieu, je suis ta source. Donc c'est bien de dire aux enfants, hein, et Christelle avait partagé là-dessus et c'était tout à fait juste, de dire aux enfants, écoute, voilà, ce mois-ci, je t'avais dit qu'on partirait, je ne sais pas moi, en vacances ou en week-end à Tombouctou le week-end prochain. Bah, tu sais, voilà, ton père et moi, on a fait les comptes, ta mère et moi, on a fait les comptes, et il se trouve que ça n'est pas comme on voulait. C'est normal que les enfants soient inclus, mais on ne s'arrête pas là. On ne leur fait pas croire que les parents sont Dieu. On leur dit, en revanche, on va demander à Dieu, on va prier. Vous voyez la différence? Dis à ton voisin, le juste vivra par la foi. Amen. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, mais après, il ne suffit pas d'entendre, hein, tout le monde est content, merci, c'était super. Et puis, paf, il arrive un truc dans la semaine et... Non, il faut pratiquer ce que l'on entend. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ce temps autour de ta parole. Et nous te prions afin que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant de l'Église, nous enseigne à pratiquer ce que nous avons entendu. Saint-Esprit, rappelle-nous comment nous pouvons appliquer la parole à notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, gloire à Dieu. Vous savez, vous n'oubliez pas que vous pouvez réécouter ce message. Il sera en ligne probablement cet après-midi. Et c'est magnifique. Merci d'avoir fait tous les efforts possibles pour qu'il soit enregistré. Vraiment merci. Hein. Alors, nous allons terminer en apportant nos dîmes et nos offrandes à Dieu.